France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui aussi célèbre que les Templiers, un ordre de moines-soldats, les Chevaliers Teutoniques. Un chevalier de l'ordre teutonique se tient debout devant le château fort. Lui, le superbe, lui, le féroce, lui, la terreur de ses ennemis. Henri de Monterland. Deux mille ans d'histoire. Il y a 700 ans, entre la Russie et la Poméranie, les chevaliers teutoniques ont construit le long de la Baltique un des états les plus riches et les plus puissants du Moyen-Âge. Né en Orient au temps des croisades, cet ordre religieux, créé pour héberger et soigner des pèlerins et des croisés allemands, était devenu une force militaire redoutable. En Palestine, puis en Europe, on craignait partout ces moines-soldats dont le fanatisme religieux, la discipline de fer et la violence ont permis pendant 3 siècles de convertir et de coloniser la Prusse, les Pays-Baltes et l'actuelle Pologne, avant d'être anéantis au XVe siècle dans une des plus grandes batailles de l'époque. C'était le 15 juillet 1410. Ce jour-là, près de Tannenberg, que les Polonais appellent Grunwald, dans la région des lacs Mazur, les chevaliers teutoniques allaient subir une défaite dont ils ne se sont jamais relevés.
Personne n'aura vu une aussi grande bataille au cours de ce siècle.
Nous ignorons le nombre des soldats teutoniques.
Sous leurs étendards, ils sont 100 000. Jamais il n'y en eut autant.
Quel est le nom de ce village que l'on voit au loin derrière l'armée teutonique?
Grunwald. Regardez, mes frères.
Mon gracieux seigneur, les teutons sont en ordre de bataille.
Notre grand maître, Ulrich von Jugingen, provoque sa majesté le roi de Pologne et le prince Witold à un combat sans miséricorde. Et pour tenter d'allumer en vous une étincelle de bravoure et d'ardeur guerrière, il vous envoie ses 2 épées.
Liechtenstein! Attaquez!
Daniel Muchinger et Mathieu-Olivier, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
C'était l'extrait d'un excellent film d'Alexander Forge, Les Chevaliers Teutoniques, ce chevalier auquel vous venez de consacrer un livre très complet, publié aux éditions Ellipse, et un livre dans lequel vous rappelez qu'avant de devenir un ordre militaire, les chevaliers teutoniques, au fond un peu comme les Templiers, eh bien ils avaient une vocation religieuse et hospitalière. L'ordre des chevaliers teutoniques, c'était d'abord un hôpital, Daniel Muchinger.
Oui, c'était l'hôpital Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem, qui a été donc un hôpital qui a été fondé vers 1189, à la fin des années 80 du 12e siècle. Et il est devenu un ordre militaire et religieux en 1198.
Il s'agissait en fait de soigner, d'héberger, comme le faisaient d'ailleurs les Templiers de leur côté, au même endroit, des Allemands cette fois-ci. C'est pour les Allemands que ça a été
construit. Pour les gens qui parlaient allemand, oui, c'est cela. Parce que les hospitaliers faisaient le même travail, les hospitaliers et les templiers.
Les hospitaliers qui deviendront plus tard l'ordre de Malte. En fait, c'est un des 3 grands ordres.
C'est le 3e dans la hiérarchie, dans la chronologie.
Religieux et militaire. Alors justement, quand est-ce que cet ordre des chevaliers de l'hôpital Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem, car c'est leur nom initial, devenu chevalier teutonique, quand est-ce qu'ils sont devenus un ordre militaire, Mathieu Olivier? Pour quelle raison?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que, à la différence des hospitaliers qui ont d'abord eu une phase proprement hospitalière avant de se militariser, d'emblée, les teutoniques ont, assez vite en tout cas, les teutoniques ont eu des fonctions qu'on pourrait dire essentiellement militaires en Terre Sainte et par la suite, bien évidemment, en Europe, notamment en Prusse, quand à partir des années 20 du XIIIe siècle, ils prennent pied dans ces régions encore païennes. L'essentiel à l'époque.
En fait, ils s'installent en Europe dès cette époque, alors qu'ils se battent encore en Palestine. Il y a, si on peut dire, comme base arrière, destinée justement à aider, à financer, avec les dons qu'ils reçoivent, à financer le front, entre guillemets, qui se trouve en Terre Sainte. Il y a des commanderies en Europe, il y en a partout à peu près, Daniel Muchinger.
Il y en a partout, en France, en Allemagne, évidemment, en Espagne, en Grèce, en Alpéloponnèse. Et elles étaient partout régies de la même façon. Et c'était quelques prêtres et quelques peu de prêtres et quelques chevaliers partout.
Ils faisaient vœux, vous le rappelez.
Ils faisaient trois vœux, les trois vœux traditionnels, chasteté, pauvreté et obéissance. Et ils avaient, d'après, comme les autres ordres, ils avaient une vie conventuelle en même temps qu'ils faisaient la guerre.
Alors ils quittent la Palestine après la bataille de Saint-Jean-d'Acre en 1291. Et puis alors on va les retrouver, ils restent en revanche en Europe pour y mener une nouvelle croisade en Europe de l'Est qu'ils doivent convertir et coloniser et mettre en valeur à la demande du pape et de l'empereur.
Les chevaliers de l'ordre font tous vœux de pauvreté. Notre ordre construit cependant des châteaux, voire des moulins et des forges. Et il n'est personne ici qui puisse me dire que sur nos domaines ne règne pas la justice la plus exacte et la peur du péché. Nous rassemblerons autour de notre ordre les meilleurs chevaliers de l'Europe.
Pour le maître de notre ordre, Heil !
Heil ! Heil ! Heil !
Il a été donné à l'ordre des chevaliers de la très sainte Marie, Mère du Christ, la Lituanie, la Prusse, la Russie, ainsi que toutes les terres de l'Est où des schismatiques vivent dans l'erreur, afin que l'ordre porte la foi et la justice dans tous les pays encore impies.
Alors cette mission qu'ils reçoivent du pape, de l'empereur Frédéric II, Nelbuchinger, de convertir, de conquérir l'Europe de l'Est, on appelle ça une croisade. On l'oublie toujours, la croisade, c'était pas seulement, ça ne se passait pas seulement en Terre Sainte. Il y a eu des croisades contre les Albigeois, il y a eu des croisades en Espagne. Et là, ce que vont faire les Teutoniques en Europe, c'est une croisade aussi.
Oui, ils avaient pour mission justement de christianiser les prutaines, les populations qui vivaient. C'était un peu à l'ouest de la Lituanie et de l'Estonie actuelle. La Prusse qui est maintenant en Pologne. Et ils avaient pour mission donc de christianiser ces populations qui étaient encore païennes. Elles étaient animistes. Et ils ont eu de la part du duc de Mazovie qui les avait appelés comme récompense tous les territoires qu'ils pouvaient conquérir.
C'est-à-dire, ça pouvait s'étendre à l'infini, alors ce qu'ils ont fait en Prusse, dans ce qui s'est appelé ensuite la Prusse. En revanche, ils ont subi un coup d'arrêt, assez célèbre grâce à un film d'Eisenstein, je crois, un coup d'arrêt en Russie. Ils n'ont pas pu aller au-delà des Pays-Baltes, et là, il y a eu cette grande bataille. Rappelez-nous peut-être, Mathieu Olivier, ce qui s'est passé avec Alexandre Nevsky.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont été appelés en Prusse, proprement dit, par ce prince polonais, mais que par ailleurs, ils ont également pris pied dans ce qui sont aujourd'hui les Pays-Baltes, où là aussi, ils ont mené œuvre de croisade. Mais là, ils se sont heurtés non seulement aux païens, mais aussi aux principautés russes, qui voyaient d'un très mauvais œil cette expansion dans leur, qui était en partie leur zone d'influence. Et effectivement, un prince russe qui va passer à la postérité, Alexandre Nevsky, c'est-à-dire Alexandre de la Neva, de la rivière Neva, leur a infligé en avril 1242, sur les glaces d'un lac qui fait aujourd'hui la frontière entre l'Estonie et la Russie, une défaite cuisante qui a été immortalisée par ce film de 1938, qui dans les faits n'a sans doute pas été cette immense bataille des peuples qu'on a bien voulu nous dépeindre par la suite.
C'est quand même le premier conflit, la première bataille à laquelle participent, enfin qui oppose des Allemands à des Russes pratiquement.
On pourrait bien entendu discuter, mais effectivement, c'est le premier épisode guerrier significatif dans un conflit qui va ensuite durer très longtemps après, entre, disons, influence allemande, si l'on veut, dans les Pays-Baltes, et influence russe.
En tout cas, c'est la raison peut-être pour laquelle Staline a justement, à l'époque, en 1938, commandé ce film à Eisenstein, Alexandre Nevsky. Il s'agissait de montrer le péril allemand et lui, Staline, devenu au fond le Alexandre Nevsky du XXe siècle. En tout cas, cette croisade menée par les chevaliers teutoniques, elle fait appel aussi, évidemment, essentiellement à des Allemands, mais aussi à des chevaliers venus de toute l'Europe et même des Pyrénées, où en 1356, le comte de Foix, Gaston Phébus, allait rejoindre les chevaliers teutoniques.
Phébus, Pardon, croisade.
Il n'y a plus de croisade.
Eh bien, nous en avons trouvé une, dans le nord, avec les chevaliers teutoniques.
Baby Seven! Baby Seven!
À droite, derrière la forêt, vous trouverez la route. Et du haut de la colline, vous apercevrez le château.
Du haut de la colline, le château.
À ce que je vois, vous n'êtes pas allemand. Vous pouvez continuer votre route. Vous êtes à présent sur le bon chemin.
Merci.
Alors, le château, c'est le château de Marienbourg, où arrivait sans doute Gaston Phoebus en 1356, le siège de l'ordre des chevaliers teutoniques, leur capitale en quelque sorte, où se trouvait notamment le grand maître de l'ordre. Alors c'est très hiérarchisé, vous le rappelez tous les deux, Daniel Buchinger et Mathieu Olivier, cet ordre avec à son sommet justement un grand maître, depuis le début, depuis sa naissance.
Alors effectivement, il y avait une structure qui s'est assez vite mise en place, qui est assez proche de ce qu'on avait à la même époque chez les hospitaliers et les templiers, les noms changent un petit peu, avec effectivement un grand maître. En dessous, un conseil de ce qu'on appelle souvent les grands dignitaires. Et en dessous, donc, ce réseau des commanderies, avec à la tête de chaque commanderie un commandeur.
Le grand maître étant désigné par le chapitre général, qui comportait, je crois, 13 membres. Alors, il était assisté, vous l'avez dit, au fond d'une espèce de gouvernement. Le grand commandeur, qui était le substitut, le grand maréchal, qui dirigeait l'armée, en fait, des teutoniques. Il y avait le grand hospitalier, le drapier. Il servait à quoi, le drapier?
Alors, le drapier, on a longtemps cru qu'effectivement, il s'occupait essentiellement, notamment des tenues, du harnachement militaire. Grand drapier, bon, dans les faits, c'est devenu par la suite uniquement un titre vidé de son sens initial, qui était une sorte de titre honorifique. Donc, il ne faut tout de même pas accorder, disons, un sens trop littéral à ces titulatures qui, assez vite, ont parfois été vidées un peu de leur sens.
On arrivait aussi le trésorier, on suppose que c'était l'équivalent du ministre des Finances. Et puis alors, en dessous de cette direction, en quelque sorte, des chevaliers teutoniques, il y avait les chevaliers, tout simplement. Alors, qui sont soumis, Daniel Buchinger, à des règles très strictes. On a évoqué la pauvreté, la chasteté, mais c'était vraiment la vie quotidienne, et là, vous la décrivez bien dans ce livre, était terrible, était très, très dure vis-à-vis pour ces chevaliers.
Ils vivaient dans un... Ils avaient un dortoir, le dormitorium. Et là, ils étaient tous ensemble. Et ils étaient habillés. Il y avait toujours la lumière qui brûlait.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Alors, on craignait effectivement une homosexualité. Je crois que la sodomie était...
C'était l'un des péchés les plus graves pour lesquels ils étaient radiés de l'ordre même. Et... Le régime alimentaire montrait bien que c'était également, pas seulement, il n'était pas tonsuré, il n'était pas religieux, mais ils étaient donc avant tout des guerriers. Et le régime alimentaire le montre bien parce qu'ils avaient beaucoup de viande, ils mangeaient beaucoup de viande et ils buvaient 2 litres de vin par jour quand ils allaient à la guerre.
Oui, c'était dans les règles, ça.
Oui, c'est dans la règle. Et ils n'avaient pas, ils ne possédaient absolument rien. Et ils avaient deux tenues. Et
oui, parce qu'ils ils appartenaient quand même à des grandes familles. C'était pas seulement. C'était des nobles, pas pour beaucoup d'entre eux. Et ils faisaient don, au fond, de tout leur bien, y compris leur fameux uniforme, le manteau blanc avec la croix noire. Ça appartenait à l'ordre.
Ça appartenait à l'ordre.
Et puis, ils étaient flagellés aussi, je crois, le vendredi. Enfin,
pas forcément. c'est une légende aussi, je crois.
Ils pouvaient être flagellés quand ils se conduisaient mal, mais c'était aussi une punition qui existait hors de l'ordre teutonique.
Et notamment en dessous, alors il y avait les chevaliers frères servants, je crois, les serviteurs de façon générale. Oui. C'était quoi? Parce qu'il n'y avait pas que des chevaliers dans l'ordre.
Non, alors ce qu'il faut bien dire, ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que c'était un ordre dual avec des chevaliers qui avaient donc un régime monastique un peu adapté, comme Daniel Buchinger vient de le dire, et des prêtres qui, eux, étaient...
Ne se battaient pas,
qui s'occupaient de la liturgie, qui recevaient la confession des frères chevaliers, qui étaient chargés de l'encadrement, on va dire, religieux. Et à côté, un troisième pôle beaucoup plus diffus concerne souvent mal, d'ailleurs, dans les documents, qui est, j'allais dire, la strate des hommes, des basses œuvres un petit peu. Donc des frères servants, des serviteurs, des gens en dessous dans la hiérarchie, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, en tout cas pour l'époque médiévale.
Et puis alors, il y avait la population de ces pays qu'ils étaient chargés, on l'a dit, de convertir, mais aussi de coloniser. Parce qu'au fond, ce qui reste, évidemment, de ce qu'ils ont fait dans la région, c'est qu'ils l'ont rendue allemande. Et ils ont fait venir des colons de toute la partie occidentale de l'Allemagne, Daniel Buchinger.
Oui, c'était une colonisation systématique. Il y avait des gens qui étaient appelés à les... à faire venir ces colons qui venaient de toute l'Allemagne du Nord et beaucoup plus de l'Allemagne du Nord et puis même des pays scandinaves, mais aussi de Pologne. Ils avaient des avantages, ces colons, des avantages financiers et les populations qui avaient été soumises, elles étaient en dessous et elles étaient amenées aussi à travailler la terre et elles... Compte tenu qu'ils étaient en relation permanente avec des gens qui parlaient allemand, ils ont perdu leur langue vers le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, le vieux prussien s'est éteint au XVIIIe siècle.
Et en subissant, évidemment, on peut dire, l'oppression de ces chevaliers teutoniques contre lesquels, d'ailleurs, ces populations finiront par se rebeller.
La vie est dure pour nous, messire. Les chevaliers du Saint-Ordre ont grand besoin d'argent pour faire la guerre en Samogitie. Et une fois cette guerre terminée, il y en aura une autre. Il nous est défendu de pêcher. De chasser aussi. Pour faire moudre son grain, on est obligé de payer d'énormes taxes. Et si nous écrasons le grain chez nous, leur vengeance est terrible.
Si l'on en croit certains, les Prussiens se seraient révoltés. Plusieurs villes de l'Allemagne ont repris les armes contre nos milices.
Faut-il donc accepter de voir des hordes d'hérétiques et de païens envahir toute la chrétienté? Moi, je dis que l'inaction est notre perte.
Alors, dès le XIVe siècle, on vient d'entendre dans cet extrait de film, en fait, les chevaliers teutoniques sont pratiquement considérés, eux qui ont créé, au fond, ces pays qui les ont colonisés ou qui ont contribué à les coloniser, un peu comme des occupants. Leur présence devient assez vite insupportable parce que leur poids pèse trop lourd, au fond, sur les épaules des paysans, notamment.
Oui, alors c'est vrai que le régime qui s'est mis en place est finalement assez proche d'un régime colonial, donc avec des charges très lourdes qui pèsent sur les colons, mais surtout sur les populations indigènes soumises. Ensuite, il faut quelque peu relativiser la légende noire, celle que l'on entend dans ce film polonais, dont on a entendu plusieurs extraits, tente à noircir sans doute exagérément la réalité.
Parce que c'est un film polonais, peut-être.
Oui, alors là, on est déjà dans le mythe, polonais, dans les oppositions de mémoire. C'est pas tout à fait sûr que le régime n'ait pas été aussi dur ailleurs dans d'autres régions de l'Europe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que autant le XIVe siècle avait été un temps de prospérité,
l'apogée,
avec une certaine redistribution aussi des fruits de la croissance, mais quand la situation militaire et économique à la fin du XIVe siècle va devenir plus difficile pour les chevaliers, les crispations avec les bourgeoisies, avec la noblesse aussi du pays, vont devenir plus présentes.
Oui, parce que le XIVe siècle, vous le rappelez, en tout cas le milieu du XIVe siècle, c'est vraiment une époque de prospérité. C'était d'abord, ces chevaliers étaient des bâtisseurs, des constructeurs de châteaux. C'est peut-être ce qui marque le plus quand on visite ces régions encore, Daniel Buchinger. C'était des bâtisseurs et de villes aussi.
Des bâtisseurs de châteaux et de villes dans tout le nord, en Prusse de l'époque, en Estonie. Et le plus grand des châteaux, c'est la Marienburg, un peu au sud de Gdansk. Et c'est un château, vraiment le plus grand château qui ait jamais été construit. Tout en briques, parce qu'ils avaient fait venir, il n'y avait pas de pierre, ils faisaient venir le sable, ils faisaient les briques eux-mêmes et ils construisaient à partir de la fin du XIIIe siècle. Il y a trois châteaux, le grand château, le haut château, le moyen château et le bas château. Et le haut château est quadrilatère, avec une cour intérieure de deux étages, il y a deux séries d'arcades. Et il y a également une grande tour, une tour carrée pour voir le paysage et puis voir les ennemis qui arrivent. Et il y a également quelque chose qui s'appelle le Gdansk, qui est construit, c'est une tour qui est construite au-dessus d'un ruisseau et qui sert aussi pour l'hygiène.
Il est magnifique, on le voit en photo, en dessin aussi dans votre livre. Il a été, je crois, détruit pendant la guerre, puis reconstruit par les Polonais. Et donc, on le voit tel qu'il existait au Moyen-Âge. Alors, vous avez évoqué aussi une ville, Gdansk, qui s'appelait Danzig. Ça fait partie des villes avec Königsberg que les Teutoniques ont construit à partir de rien. C'était des villes nouvelles pour l'époque où elles existaient.
Danzig existait déjà auparavant et a été conquise, je crois, en 1309. Au début du XIVe siècle, par les Teutoniques, qui ont fait pas mal de victimes, mais beaucoup moins qu'on l'a dit. Königsberg a été vraiment construit, c'était pour Ottokar, pour le roi de Bohême, Ottokar.
Alors, il y a tout ça dans un pays très prospère. Ces ports faisaient partie de la Ligue hanséatique. Il y avait un commerce très actif. La Prusse, parce que ça devenait la Prusse, était riche en céréales, vous le rappelez, en ambre aussi. Vendait des fourrures et recevait aussi des produits de toute l'Europe. C'était vraiment un état extrêmement prospère, mais alors entouré par des voisins très puissants qui, au début du XVe siècle, se coalisaient contre les chevaliers teutoniques du grand maître Ulrich von Jungingen et derrière le roi de Pologne, Jagellon.
Les chevaliers teutoniques ont pris les bateaux de blé que nous envoyions à Lituanie.
Que veut donc Jungingen ? Vendre notre blé ou trouver un prétexte qui lui permette de nous faire la guerre ?
La guerre est-elle inévitable ?
Faut-il s'incliner ? Faut-il les laisser asservir la Samogitie ? La Lituanie ? Est-on sûr qu'ils s'arrêteront là ?
L'ordre teutonique a une puissance invincible.
Oui. Nous succomberions certainement si nous étions seuls pour les arrêter. Mais avec la Lituanie, la Russie, d'autres peuples amis, nous vaincrons.
Jagellon se prépare à s'allier avec les impies. Les chevaliers qui iront se battre contre les Polonais et leurs alliés gagneront leur paradis.
Et c'était en 1410, à la veille d'une très grande bataille, un peu oubliée aujourd'hui, notamment en Europe occidentale, mais dont se souviennent les Allemands. Ça a été le grand affrontement, la bataille de Tannenberg ou de Grunwald pour les Polonais, hein, puisque le nom n'est pas le même, et qui marquait le début d'un très long déclin, puisqu'il existe encore, mais d'un déclin important. Comment expliquer ce déclin, au fond, des chevaliers teutoniques après cette défaite contre le roi de Pologne, Jagellon ?
Alors, pour le dire en deux mots, le tournant, si l'on veut, ça a été la fin du XIVe siècle et la conversion de la Lituanie, dernier gros bastion du paganisme en Europe de l'Est au catholicisme, et l'union politique de la Lituanie avec le royaume de Pologne. À partir de ce moment-là, les chevaliers teutoniques ont perdu leur raison d'être,
oui, parce
largement.
Que tout le monde est converti.
Voilà, donc ils ont essayé de continuer le combat, mais le cœur n'y était plus, j'allais dire, ils n'avaient plus le même soutien qu'avant. Et.
Bah, le pape, par exemple, ne les soutient plus.
Le pape ne les soutient plus.
Lui qui avait créé l'ordre, enfin ses prédécesseurs.
Les empereurs germaniques, plus vraiment non plus, ou beaucoup moins qu'avant. Et le deuxième acte, c'est donc Tannenberg, acte militaire, où là, effectivement, ils essuient réellement, dans une des plus grandes, ce qui a été une des plus grandes batailles de la fin du Moyen-Âge, une défaite cuisante, vous l'avez dit, dont ils ne se relèveront jamais vraiment. Et ensuite, ça ira de mal en pis jusqu'au début du XVIe siècle, où ils sont définitivement expulsés de Prusse.
Toute l'élite, d'ailleurs, à cette bataille d'Annenberg, d'un nombre considérable de chevaliers, dont le grand maître lui-même, parce qu'il se battait lui-même, le grand maître Jungingen, ont été tués. Alors, ils perdent progressivement une bonne partie de leur territoire. Ils deviennent un duché soumis à l'autorité, en fait, du roi de Pologne.
Tout à fait, oui.
En fait, ils sont à l'origine de la Prusse, c'est le duché de Prusse.
Alors voilà, c'est-à-dire que le grand maître Albrecht de Brandenburg se convertit en 1525 au luthéranisme et dans le même mouvement, si l'on peut dire, se transforme de grand maître en duc laïque, séculier, sous influence du royaume de Pologne. Et donc là, c'est la fin de la Prusse teutonique, on peut dire. Et c'est le début de la Prusse ducale. Et c'est le début de la mainmise des Hohenzollern.
Qui était un grand maître à l'origine. Les premiers Hohenzollern, les premiers rois de Prusse, devenus plus tard empereurs d'Allemagne, étaient des Hohenzollern. Ils descendent d'un des...
Disons que ce sont les lointains descendants, parents de ce grand maître défroqué, si l'on veut, du début du XVIe siècle.
Alors, on dit, vous le rappelez dans ce livre, que bon, leur histoire continue, mais alors elle est reprise, on l'oublie un petit peu, puis elle est reprise au XIXe siècle, et elle aurait même, dites-vous, inspiré le nazisme. Hein. Vous citez cette phrase terrible de Hitler dans Mein Kampf, « Il faut que le nouveau Reich parte en campagne sur les routes empruntées jadis par les chevaliers teutoniques ». C'est un peu accablant pour leur histoire.
Alors, c'est tout le paradoxe de l'époque nazie, c'est-à-dire qu'effectivement, les nazis ont récupéré le mythe teutonique, chevalier teutonique, comme emblème d'un impérialisme germanique triomphant, image que les nazis n'ont pas inventée, hein, qui remonte à l'école nationaliste allemande du XIXe siècle. Et dans le même temps, ils ont persécuté l'ordre teutonique qui existait toujours dans les années 30. Voilà, donc en Autriche. Et après l'Anschluss, ils ont donc confisqué les biens de l'ordre et emprisonné, même pour un temps, le grand maître. Donc c'est assez paradoxal. Récupération et persécution de l'ordre réel dans le même temps.
Et il existe encore, Daniel Buchinger, cet ordre.
Oui, cet ordre existe encore. C'est uniquement un ordre hospitalier.
Qui compte, je crois, à peu près 80 membres aujourd'hui.
Oui, il y en a aussi maintenant, depuis quelques temps, il y a aussi des sœurs. Des sœurs hospitalières et aussi à l'ANA en nord de l'Italie et puis en Slovénie.
Merci Daniel Buchinger, merci Mathieu Olivier. Je rappelle que vous êtes les auteurs du livre Les Chevaliers Teutoniques, publié aux éditions Ellipse. À lire également Une histoire de la Prusse qui vient de sortir chez Fayard de Jean-Paul Bled qui rappelle qu'ils sont à l'origine de la Prusse. Vous avez pu entendre des extraits des films Les Chevaliers Teutoniques d'Alexander Ford et du téléfilm Gaston Phébus de Bernard Borderie disponible en DVD aux éditions Warner Vision France. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pierre-Yves de Rollin et Benjamin de la Gâtinais, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comilac.